Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Je suis super contente de vous retrouver sur Fréquence 7, cette radio que j'adore, mais vous le savez déjà. Notre émission, Il était une fois, vous le savez, traite du conte. Mais cette année, j'aime commencer les émissions par la question « Pourquoi faut-il raconter des histoires ? Pourquoi est-ce essentiel ? Pourquoi est-ce nécessaire ? Est-ce vital ?» Eh bien, j'ai tiré d'un bouquin qui s'appelle « Pourquoi faut-il raconter des histoires ?» l'avis de différents conteurs et conteuses extrêmement connus dans le monde entier. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire partager l'avis de Hassan Kouyaté. Vous connaissez peut-être Sotigui Kouyaté, très grand acteur, très grand conteur. Hassan Kouyaté est lui aussi un très grand conteur et il est aujourd'hui le directeur des francophonies de Limoges et il accueille énormément de grands conteurs du continent africain. Et grâce à lui, on a beaucoup de spectacles magnifiques. Voilà ce qu'il dit. Pourquoi faut-il raconter des histoires ? Il dit « On dit que mille et une personnes diraient-elles que le mensonge est vérité ? Le mensonge restera toujours mensonge. Mille et une personnes diraient-elles que la vérité est mensonge ? La vérité restera toujours vérité. Mon conte n'a pas pour but d'établir la véracité ou la fausseté de ces paroles, disait un conteur. Mais pour les bambins qui se battent au clair de lune, c'était un récit fantastique. Pour les femmes fileuses de coton pendant les longues nuits de saison froide, c'était un passe-temps délectable. Pour les mentons velus, les adultes, c'était une véritable révélation. Conte, je suis à la fois utile, futile et révélateur. On dit aussi que quand tes pieds t'engagent quelque part, tu peux les retirer. Quand tes mains t'engagent, tu peux les retirer. Mais quand ta bouche t'engage, tu ne peux que t'en retirer. Une parole qui est sortie ne s'avale plus. C'est pourquoi on dit, s'il est bon de parler, savoir se taire de temps en temps n'est pas mauvais non plus. Je ne vais pas me taire. On dit aussi, quand les mots sont dans la bouche, tu es maître des mots. Mais quand ils dépassent la frontière de tes lèvres, tu deviens esclave des mots. On dit encore, quand les mots viennent du cœur, ils touchent le cœur. Mais quand les mots viennent de la bouche, ils ne touchent que les oreilles. On dit que la parole a éclaté le monde et que le silence l'a reconstruit. On dit que c'était deux personnes qui s'asseyaient et qui regardaient le coucher du soleil. Quand le soleil finissait par se coucher, le premier se levait et disait « Eh oui !» et il partait. Et le deuxième se levait et disait « Eh oui. » Et ils sont allés se coucher. Et le lendemain, ils viennent encore et ils regardent le coucher du soleil à la même place. Le soleil se couche. Le premier se lève et dit « Eh oui. » Le deuxième se lève et dit « Eh oui. » Et ils vont tous deux se coucher et les jours sont passés ainsi. Et un jour qu'ils étaient assis, un troisième ami est venu s'asseoir avec eux. Et ils regardaient tous les trois le coucher du soleil. Quand le soleil a fini de se coucher, le premier s'est levé et il a dit « Eh oui. » Le deuxième s'est levé, il a dit « Eh oui !» Et le troisième s'est levé, il a dit « Eh oui, 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 oui !» Et ils sont tous allés se coucher. Le lendemain de ce jour, les deux premiers sont arrivés avant le troisième. Le premier a demandé au deuxième « Qu'est-ce que tu penses du nouveau ?» Le deuxième a répondu « Il est gentil, mais qu'est-ce qu'il est bavard !» Bref, Hassan Kouyaté raconte des histoires pour savoir pourquoi on lui racontait des histoires. Il est né dans une cour. Il y avait un vieux. C'était son grand-père. Lui, il partait à l'école occidentale et il venait à la maison. Il ne savait pas que c'était l'école de la vie, l'école de la maison. Toujours est-il que ce soir-là, à l'école occidentale française, on lui avait appris que le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest, que la terre tournait autour du soleil. Il avait 7 ans. Il est venu à la maison, il a pris un verre, il a rempli le verre d'eau, il a posé le verre par terre, et tout en fixant le verre, il s'est dit « Si la terre tourne, à un moment, le verre va se renverser. » Mais ça ne se renversait pas. Alors il est allé voir son grand-père et lui a dit « Voilà grand-père, il y a un problème. On m'a dit aujourd'hui à l'école que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, parce que la terre tourne autour du soleil. Et moi, j'ai posé depuis 30 minutes un verre par terre et il ne s'est toujours pas renversé. » Son grand-père lui a dit « Ça dépend. Si tu crois, ça devient ta vérité. Il y a 3 vérités. Ta vérité, ma vérité et la vérité. Assieds-toi, écoute. » Il lui racontait toujours des histoires. Et maintenant, lui, Hassan Kouyaté, il essaie de raconter pour comprendre pourquoi on lui racontait des histoires. Son grand-père commençait toujours par « Il était une fois ». Et il disait « Assieds-toi », puis « Il était une fois ». Et lui disait « Grand-père, chaque fois tu commences par « Il était une fois », pourquoi ?» Il lui répondait « C'est pour être sûr de ne pas me tromper dans la date. » C'était un jeune homme, un très jeune homme, très beau. Il était le plus beau de la terre. Il aimait une jeune fille. Il voulait se faire sa déclaration d'amour à la jeune fille, mais il ne voulait pas faire la déclaration avec les yeux ou la déclaration avec les mains. Il voulait faire la déclaration avec les mots. Et il n'avait pas de mots. Aucun son ne sortait de sa bouche. Et voilà qu'un jour, Dieu vient et lui dit « Je connais ton problème. Je vais te donner une chance. Tu pourras dire un mot par jour. Et le jour où tu n'utilises pas ton mot, tu le crédites pour le lendemain. Le lendemain, tu auras 2 mots. » Il arrive parfois que Dieu soit bon. Et c'est ainsi que le premier jour, il voit la fille qui passe. Il voulait dire son mot et puis il se dit non. 2 jours plus tard, il avait 2 mots. 3 jours, 3 mots. 7 jours, 7 mots. Et là, il était prêt. Alors la fille passe. Il la regarde dans les yeux, après l'avoir arrêtée avec la main. Et il dit « Mademoiselle, vous êtes belle. Je vous aime. » Et la fille lui répond « Comment ?» Voilà ce que dit Hassan Kouyaté à la question « Pourquoi faut-il raconter des histoires ?» Pourquoi faut-il raconter des histoires? Eh bien parce que c'est tellement agréable de les écouter. Vous êtes prêts? Par un beau matin, un hérisson découvrit un trou dans le mur de pisée qui clôturait un verger. Il appela le loup, son ami, et lui dit que ce trou était à la dimension de leur corps et qu'ils pourraient tous deux s'introduire dans le jardin où poussait, entre autres, une vigne aux raisins succulents. Aussitôt dit, aussitôt fait, Quentin, il faut que tu répondes ça. Vous savez que Quentin est avec moi dans le studio pour la technique et je lui fais des blagues comme ça. Tu es prêt, Quentin?
Je suis prêt. Aussitôt fait.
Voilà, c'est ce que les auditeurs ont dit dans leur voiture ou dans leur salon. Quand j'ai dit aussitôt dit, tout le monde a dit aussitôt fait, comme dans tous les contes. Donc, le loup et le hérisson entrèrent dans le jardin fruitier et se gavèrent de raisins et de tous les fruits qui s'offraient à leur vue. Mais le hérisson, prévoyant, sortait et rentrait par le trou du mur à chaque fruit avalé, afin de vérifier la grosseur de son ventre. Alors que le loup, goulu, mangeait tant que sa faim fut apaisée, il voulut suivre le hérisson par cette petite ouverture. Mais il ne lui fut plus possible d'y pénétrer. Alors affolé, il cria à son ami qui se trouvait de l'autre côté du mur « Toi qui m'entraînas dans ce lieu de tourment, apprends-moi comment en sortir, car tu sais que je périrai de la main du jardinier s'il me trouve ici. » Et le hérisson lui répondit « Fais le mort, laisse pendre ta langue, tourne tes yeux et fais en sorte de rendre ton corps tout flasque, comme s'il s'agissait de ta propre dépouille. » Quand le jardinier ouvrit la porte du verger, il crut voir le cadavre d'un loup. Supposant que l'animal avait tenté de sauter par-dessus le mur et qu'il s'était écrasé au pied de la vigne, l'homme se félicita d'avoir élevé son pisé aussi haut. Il saisit le loup par la queue, le fit tournoyer au-dessus de lui et le renvoya par-delà le mur à son désert. Le loup s'enfuit sans se retourner tant sa peur était grande. Mais sa queue cassée est restée entre les mains du jardinier. La pauvre bête alla se plaindre auprès du hérisson en expliquant « Désormais, je ne pourrai plus vivre la tête haute, sinon au fond d'un trou, car tu te doutes bien que le jour où ce jardinier, cause de mon infirmité, me reconnaîtra à ma queue coupée, je ne donnerai pas cher de ma peau. » Le hérisson réfléchit un court instant. Puis il souffla au loup « Réunis tous tes frères, qu'il y en ait le plus possible. De mon côté, je vais aller prévenir mon ami. » Les loups accoururent nombreux à l'appel du désespéré. Ils venaient de tous les coins du pays, se demandant ce que l'on attendait d'eux. Le hérisson leur dit de former un cercle en se tournant le dos, comme s'il s'agissait d'un jeu, et il les attacha les uns aux autres par la queue. Ensuite, il siffla son ami, qui fit plusieurs fois le tour de la meute en aboyant. On vit le poil des loups qui se dressaient sur leur échine, puis soudain, chacun d'eux s'élança droit devant lui avec l'intention d'attraper la chienne. Ils tirèrent si fort que leur queue se cassa. Bien entendu, cela ne plut pas à tout le monde. Mais voilà pourquoi le jardinier ne put jamais reconnaître son voleur. On continue avec ces contes marocains. Par un jour de malédiction, un affreux serpent s'installa à l'entrée de la vallée où vivait paisiblement la tribu. Or, ce serpent ne se contentait pas de barrer le chemin. Il poussait la cruauté jusqu'à dévorer ceux qui voulaient pénétrer dans la vallée ou en sortir. Un soir, alors que la peur habitait les pensées de chacun, il y eut un rassemblement de tous les villages. Et l'on résolut d'aller tuer ce serpent armé de pierres et de bâtons. Cependant, un homme, traître de la tribu, courut avertir le serpent, lui demandant en échange de ce renseignement de le laisser passer quand il le voudrait. « Je suis venu te prévenir, » ajouta-t-il, « mais je pourrais également t'aider si tu te décides à accepter ma proposition. » Derrière moi, les hommes de ma tribu arrivent en grand nombre du fond de la vallée. Le serpent sortit la tête de la grotte où il avait coutume de se dissimuler et vit en effet une foule de gens armés qui survenaient en poussant des cris de mort. Alors l'homme expliqua : Je peux te cacher dans mon ventre, car personne ne pensera à t'y chercher. Mais promets-moi d'en sortir dès que ces gens seront repartis. Le serpent accepta. Il entra dans le ventre de l'homme. Parvenu à la grotte, ceux de la tribu cherchèrent partout, creusèrent, montèrent au plus haut des arbres, mais ils ne découvrirent pas le méchant reptile. Quand ils furent partis, l'homme dit au serpent « Maintenant tu peux sortir. » Mais vous l'avez deviné, le serpent refusa, prétextant qu'il se trouvait très bien où il était, sachant qu'il serait nourri de la nourriture ingurgitée par l'homme et désaltéré par sa boisson. L'homme le supplia encore de partir, mais supplications et menaces ne servirent à rien. Ils décidèrent d'aller voir une vache réputée pour sa sagesse, afin de lui demander de régler leur litige et de les départager. La vache répondit à l'homme : Lorsque j'étais jeune, et que mon lait était abondant. Toi et les tiens, preniez soin de moi. Mais maintenant que je vieillis et que mon lait tarit, vous me rejetez. Si bien que je donne raison au serpent d'avoir su à son tour profiter de l'homme. L'homme, bien sûr, refusa le jugement de la vache et voulut connaître l'opinion du mulet, lui aussi très vieux et très sage. Le mulet répondit : Lorsque j'étais jeune, vous vous occupiez de moi, car je travaillais pour vous. Chaque jour, me voyez au champ ou sur le chemin du souk, transportant d'énormes charges, et le soir, je devais encore imiter le cheval pour les jeux des enfants. Mais j'étais heureux d'accomplir ma tâche, jusqu'au jour où vous n'avez plus voulu de moi, car je ne servais désormais à rien. Alors aujourd'hui, que le serpent profite à son tour de l'homme. En définitive, l'homme et le serpent allèrent écouter la sentence du hérisson. Ce dernier jugeait les affaires compliquées de la vallée. Mais comme l'homme était le seul à exposer leurs différends, le hérisson répliqua « Comment puis-je juger une affaire aussi importante alors qu'un seul plaignant se présente ? En effet, je ne vois qu'un homme. Donc si tu existes réellement dans le ventre de l'homme, je te demande de sortir, serpent, et de te montrer en venant prendre ta place devant moi auprès de l'homme. » Aussitôt dit,
aussitôt fait,
le serpent sortit lentement. Pendant ce temps, le hérisson se retira dans les broussailles et en rapporta un grand bâton. Il le tendit à l'homme en disant « Le bâton est entre tes mains et le serpent encore engourdi par son séjour dans tes entrailles est à terre. » L'homme comprit et il frappa le serpent jusqu'à ce que celui-ci en mourût. Mais de son côté, l'homme était épuisé et il tomba mort à son tour le bâton à la main. Alors le hérisson courut annoncer la nouvelle à la tribu en clamant très fort « Désormais, vous pourrez sortir de votre vallée et y rentrer sans crainte de danger. Le serpent qui vous dévorait vient de mourir de la main de l'homme qui vous trahissait. Et le traître le suivit dans la tombe, le temps de reprendre et de perdre définitivement son souffle. La tribu fêta le hérisson et la vallée retrouva avec sa liberté une nouvelle raison de vivre. Et pour finir notre émission, une dernière histoire. Un marchand s'était enrichi par le seul commerce de petit lait. Un jour qu'il venait de monter à bord d'un bateau, en compagnie de son singe, le singe s'empara de sa choucara. La choucara, c'est un sac de cuir qu'on porte en bandoulière. La choucara de son maître. Et il vida la choucara de tout l'or dont il fit une pile. Ensuite, il prit une pièce et il la jeta à la mer. Puis une seconde, qu'il remit dans le sac. Une troisième, qu'il jeta à la mer. Puis la suivante, qu'il remit dans le sac. Le marchand, qui se promenait sur le pont du bateau, le vit de loin choisir les deux dernières pièces. Il en laissa tomber une dans la mer et confiant l'autre à la choucara. Furieux, le marchand se précipita vers le singe afin de le corriger. Lorsqu'un voyageur qui avait assisté à toute la scène lui saisit le bras. « Pourquoi est-ce que tu arrêtes mon geste ?» s'étonna le marchand. « Je m'apprêtais à administrer à cet animal privé de raison ce qu'il mérite. » L'homme répondit « Pour moi qui n'ai jamais vu autant d'or, j'aimerais d'abord que tu me confies en bon frère et bon compagnon de voyage le secret de la provenance de cet or. » « Il n'y a pas de mystère pour cet or, » répondit le marchand. « C'est en vendant du petit lait, comme il en existe partout. » Mais ce petit lait devait contenir quelques ingrédients qui en faisaient toute sa richesse et qui contribuaient à la tienne, insista l'autre. « Certes, la valeur que tu accordes à l'eau dont je coupais mon petit lait est fort plaisante, » s'esclaffa le marchand, avouant ainsi son forfait. Perplexe, le compagnon de voyage le questionna. « Puis-je savoir quelle quantité d'eau tu ajoutais à ton petit lait ?»« Je le coupais à moitié, » dit le marchand. Le sage voyageur observa un instant de silence, puis il conclut. « Alors pourquoi reprocher à ce singe de vouloir respecter la vérité en ne conservant dans ta choucara que les pièces gagnées honnêtement ? Dis-toi qu'il est bien normal que l'argent de l'eau retourne à l'eau. What a wonderful world. Il est déjà temps de se séparer, ça passe vite, hein, 20 minutes d'émission. Merci beaucoup à Quentin à la technique. On se retrouve le mercredi et le samedi à 16h. Et d'ici à ce qu'on se retrouve, n'oubliez pas, hein, il faut vous raconter des histoires.